Le rodéo qui revient aujourd'hui à Nouméa, le Royal Caledonia Show continue jusqu'à 17h sur l'hippodrome Henri Millard. Les 60 ans de l'AS Lossy, c'est aujourd'hui à Dumbéa, une journée de partage et d'animation entre les 200 licenciés du club. L'actualité en métropole, 5 ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice, les portes de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont rouvert ce matin pour nous. Après cette inauguration, Emmanuel Macron recevait la quarantaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Paris, Donald Trump et Volodymyr Zelensky notamment. En Nouvelle-Zélande, 80 000 poules vont être abattues, une annonce du ministère des Industries primaires après que la grippe aviaire ait été détectée dans un élevage de l'île du Sud. Les sports et du football, d'abord en métropole, la suite de la 14e journée de Ligue 1 avec des victoires de Monaco, de Nice et de Lyon ce matin. Et puis en Calédonie, Dumbéa chez les hommes et le Mont d'Or chez les femmes sont sacrés champions territoriaux de basket. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et l'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est cette aire de brousse en ville. Le Royal Caledonia Show continue à l'hippodrome Henri Millard. Aujourd'hui, retrouvez toutes les activités qui font l'essence même d'une foire, Charlotte Coulson.
Et oui, le premier rodéo s'est tenu hier soir, mais les spectateurs n'étaient pas en reste ce matin. Entre la finale du concours de barbecue, les démonstrations de jeux équestres ou bien les concours d'épluchage de pommes de terre. Les visiteurs avaient le choix pour se divertir et tous s'accordent à dire qu'il y a de l'ambiance aujourd'hui à Nouméa.
J'ai été absorbée par les petits poneys et puis...
On se laisse surprendre par les activités.
Et on se laisse surprendre par les activités, c'est ça, au détour d'un saut.
Bah, ça fait du bien que ce soit à Nouméa, on ne fait pas la route et tout ça.
Là, c'est un saut d'obstacles de chevaux. Avec un très beau public en feu.
Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le public.
Alors, on est en train d'assister au concours d'épluchure de pommes de terre. Ça se passe super bien, j'encourage mon mari et ma petite sœur. Ah oui, il faut qu'il gagne, hein. Pour toutes les pommes de terre qu'il a épluché à la maison. Hey,
tu pourras venir refaire notre lait tous les jours chez nous.
Et il y en a d'autres qui sont aussi repartis le sourire aux lèvres. Je parle bien sûr des Calédoniens qui ont joué au jeu de la roue RRB, car nous avons évidemment un stand sur l'hippodrome. Et ce matin, quelques chanceux ne se sont pas retrouvés chez eux les mains vides. Gasson a même remporté un bon de 10 000 francs de carburant.
Aïe, caramba, Gaston.
On a joué à la roue pour gagner à RRB, pour gagner un petit lot. On a reçu un bon cadeau de 3 000 francs. Et on est ravis. À chaque fois qu'on va à la foire de Bourail, on est très contents des activités et des gens qui organisent les activités. J'ai gagné une casquette et un t-shirt, un très joli t-shirt. Très contente. Ça fait toujours plaisir.
J'ai gagné 10 000 francs de carburant. Et j'ai patienté pour attendre ce jeu-là. Mais... Ah, je suis content. Surtout que j'en ai besoin en ce moment. Je suis en panne d'essence. Non, je rigole.
Et vous aussi, venez tenter votre chance. Le prochain jeu de la roue est prévu à 13h et à 15h. Le Royal Caledonia Show continue, lui, cet après-midi jusqu'à 17h. Rendez-vous à 15h pour le deuxième rodéo du week-end.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et des cadeaux que l'on vous fait gagner au Royal Caledonia Show, aux cadeaux que l'on a aussi pour Noël à offrir, le rendez-vous du cœur, au cœur de Noël, c'est donc sur RRB. Vous êtes nombreux depuis le début de cette opération à venir déposer vos cadeaux et vos dons. Ils seront distribués aux enfants dans le besoin et notamment aux familles touchées directement par les exactions et les violences insurrectionnelles. Hier encore, nous avons eu le plaisir de rencontrer Guy, Evelyne, Claudette ou encore Christine et Jean-Charles. Ils sont venus nous voir pour déposer leurs cadeaux. Nos partenaires que sont la Croix-Rouge, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul et la Table ronde française restent engagés à nos côtés. Les portes de Radio Rythme Bleu sont ouvertes tous les jours de 7h30 à 19h. Vous pouvez également déposer vos cadeaux à la boutique Petit Dôme, route de Lanzvata. On compte sur vous afin que cette année, Noël, soit une fête pour tous. Et une fête, un anniversaire était célébré aujourd'hui au Parc Fayard de Dumbéa. Le club de Lossy souffle ses 60 bougies. Une journée d'animation a été organisée à cette occasion. Michael Juneski.
L'AS Lossy, du nom du district de Lossy à Lifou, avait été créé à la fois pour participer aux principales compétitions sportives, mais aussi pour maintenir un lien entre la communauté du district Djéhou, venue sur Nouméa, et les valeurs traditionnelles à travers le sport. Cette journée, c'est l'occasion pour les anciens de partager leur expérience, à l'image d'Henriette, ancienne joueuse de la sélection de volley.
J'étais une des premières joueuses du club de Lossy, il y a bien longtemps. J'ai fait les Jeux du Pacifique. J'ai une grande pensée pour mes amis qui sont partis. Les six majeurs des Jeux du Pacifique au volley-ball dans le temps, c'était composé des filles de Lossy. Et aujourd'hui, ce rassemblement compte beaucoup pour moi. Voilà. Donc, même si on a pris un peu d'âge, mais c'était important d'être présent. Je vois, ça me fait plaisir de voir qu'il y a la jeunesse qui est là, l'équipe qui est là.
Des messages qui sont entendus par la jeunesse, d'autant plus durant une année où les émeutiers ont provoqué la fin prématurée de toutes les compétitions pour des milliers de licenciés et où le mouvement sportif a été durement impacté. Djibril est membre de l'équipe de foot de l'AS Lossy.
Je suis dans le club depuis que je suis petit, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Je joue au foot, je ne suis plus sorti du club jusqu'à là. Là, je suis chez les seniors, je joue avec la grande équipe. Je fais partie de la sélection. Moi, pour moi, c'est une fierté aussi d'être là parmi les vieux. C'est un plaisir aussi de partager avec les grandes personnes, d'écouter aussi leur partage, ce qu'ils ont vécu aussi. Puis c'est bien, ça nous encourage aussi, nous, la jeunesse, à continuer. Toujours dans le bon côté, le sport.
Si l'AS Lossy proposait de très nombreuses disciplines par le passé, désormais, ils sont quelques 200 licenciés à pratiquer essentiellement le cricket, le football et le volley. La journée se déroule autour du sport, des couleurs orange et blanche de l'AS Lossy, mais aussi de la culture ainsi que d'animation pour les plus jeunes jusqu'à 16h.
On reste sur le territoire avec l'actualité politique. C'est le président de l'Union calédonienne, Emmanuel Tchibaou, par ailleurs député de la seconde circonscription, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Michael.
Une interview centrée sur son rôle à la présidence de l'Union calédonienne, où il a été élu lors du 55e congrès de l'UC. Il a d'abord été interrogé sur le sens de son élection. Est-ce un signe d'apaisement et l'UC va-t-elle prendre ses distances avec la CCAT ?
Alors, que ce soit bien clair pour tout le monde, la CCAT a été créée par l'Union calédonienne pour mobiliser sur le projet de loi constitutionnelle, faire obstacle au projet de loi constitutionnelle. Le premier objet, c'était des manifestations pacifiques. Il n'y a qu'un seul objet, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autres motions qui ont été portées par l'Union calédonienne à destination de cette cellule pour des dégradations, pour des violences et tout ça. Ça c'est...
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été surpris, vous, par ce déchaînement de violence le 13 mai ?
Ah oui, c'est clair. Enfin, j'ai été surpris, oui et non. Moi, je l'ai déjà dit, ça fait déjà plus de 10 ans que les signaux ils sont au rouge. Hein. Je le dis dans le cadre de mes fonctions actuelles, mais aussi dans le cadre de mes anciennes fonctions. Moi, j'ai travaillé avec la DPJEJ, avec le quartier des mineurs au camp Est, avec un certain nombre d'acteurs sociaux ici dans la ville de Nouméa et à la périphérie. Les indicateurs étaient déjà au rouge depuis un moment, que ce soit sur la consommation des psychotropes ou les conduites addictives ou les violences intrafamiliales. Enfin voilà, on est dans le podium de tête dans la région Pacifique et en France. Hein. Oui, je dirais qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été certainement le projet de passage en force, là, comme on dit, du projet de loi constitutionnelle. Mais il y avait quand même un lit de malaise social qui était latent. Après, la surprise, elle était surtout sur le déferlement, quoi. La violence avec laquelle ça s'est exprimé.
L'Union calédonienne décline toute responsabilité dans la violence insurrectionnelle et elle demande qu'une enquête soit faite, affirme Emmanuel Tchibaou.
On a demandé d'éclaircir parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'émet que des hypothèses. On a fait valoir des notes de la DGSI ou je ne sais plus là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en tant que responsable politique, nous, on a bien clarifié ça au congrès à Mia, à Canala. Ça, ce n'est pas nous, ça. Hein. Ça, ce n'est pas l'émotion qu'on a portée. Ce n'est pas les valeurs de l'Union calédonienne. Ce n'est pas les valeurs des indépendantistes qui sont portées lorsqu'on commet ce type de dégradation ou on fait valoir la violence comme argument politique. Ça, c'est pas nous, quoi.
C'est la CCAT qui vous a échappé. C'est peut-être ça aussi qui a échappé à l'Union calédonienne.
Alors là, à dire que c'est la CCAT qui a échappé, je ne peux pas parler dans la mesure où, à l'heure d'aujourd'hui, l'instruction elle est toujours en cours et qu'il faut attendre la fin de l'instruction pour pouvoir juger et corriger les dysfonctionnements s'il y a eu à l'intérieur de l'Union calédonienne.
Il a également été demandé au président de l'UC quelles étaient les relations avec le PALICA et l'UPM qui ont pris leur distance avec le FLNKS. Va-t-il leur tendre la main ?
Les tiraillements à l'intérieur des partis, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, pour le FLNKS et puis pour les autres partis auparavant, même au sein du FI jusqu'à la création du FLNKS. Donc le tiraillement qu'il y a en interne, il est peut-être plus prononcé aujourd'hui parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans la rue, qui a été en effet de miroir les incompréhensions qu'on a pu avoir à l'intérieur de nos structures. La clarification, elle était aussi portée à cet endroit-là. Ben, aujourd'hui, on est engagé dans une phase où on doit reprendre les discussions. Il faut, moi c'est ce que je pense, hein, partir de ce qui a été engagé à l'avant-dernier congrès du FLNKS où on avait à Kaimolo une trajectoire et le dernier congrès de Kaimolo n'a pas donné autre chose que finalement conforter cette trajectoire de discussion engagée avec l'État.
Emmanuel Tchibaou s'est aussi largement exprimé sur les discussions concernant l'avenir institutionnel, des discussions qui, selon lui, doivent reprendre.
La position, c'est de discuter. Après les accords, enfin les tentatives d'approche qu'ils ont été menées depuis le début d'année, là, jusqu'en avril, elles ont été faites, pas en bilatéral, elles ont été faites avec les partenaires loyalistes et républicains et calédoniens.
Sans l'État, là, pour le coup.
Oui, voilà. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être une appréciation différente, mais c'est la réalité. On n'a pas changé de tourne-disque. On est toujours sur la trajectoire qui nous amène vers la souveraineté pour nous, hein, parce qu'on est indépendantiste, c'est ça qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, on a le 13 mai qui nous a trouvé là. Tout s'est arrêté. On a demandé une mission de médiation. On a demandé qu'on ait un ministre de plein exercice. Aujourd'hui, on a demandé aussi une des premières épines qui était l'obstacle à la discussion. C'était le projet de loi constitutionnelle. Tout ça, ça y s'est retiré. Donc c'est là aussi où on a des gages de confiance à construire. Mais pour pouvoir aller discuter, il faut que clarifier le cadre. On parle de souveraineté partagée là avec M. Larcher et Mme Brown-Pivet, les présidents des deux chambres. Ça, c'est une annonce, mais c'est déjà dans le texte. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est important de clarifier le cadre. Parce qu'aujourd'hui, si l'État reprend la main dans la gestion, en tout cas les débats, la gestion des débats, c'est surtout le cadre et la méthode qu'il faut clarifier. Nous, on est prêts à discuter.
L'UC est prête à discuter, mais la reprise des discussions dépend des formats et de la méthode que proposera l'État, déclare le président de l'Union calédonienne, qui a été interrogé sur le projet de fédération territoriale mis sur la table par les loyalistes.
Je pense que tout est à mettre sur la table. Enfin, c'est ça. Hein. Si on doit sortir de l'accord de Nouméa, il faut aussi faire le bilan de l'exercice des compétences. Qu'on soit loyaliste ou indépendantiste, d'une manière ou d'une autre, on s'est engagé dans un chemin dans lequel on a dit il faut investir la décentralisation et rééquilibrage. Nous, on a dit décolonisation aussi. Construire des contenus, aller chercher des compétences pour qu'on avance un pas de plus vers la souveraineté. Mais la perspective qui nous est ouverte aujourd'hui, moi je pense, hein, c'est de poser à plat toutes ces propositions et comme je l'ai dit au représentant de l'État, M. Buffet, il faut bonifier les accords. Il faut bonifier les accords qui n'ont pas été au bout et puis partir des propositions que les uns et les autres ils ont avancées dessus. Parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir avancer. C'est être en capacité à un moment donné de faire un choix.
Emmanuel Tchibaou évoque la reprise des discussions et la recherche d'un accord. Il lui a été demandé pourquoi, dans ces conditions, la motion de politique générale adoptée par le 55e congrès de l'UC pose un calendrier en affirmant que la signature de l'accord de Kanaky devra intervenir au plus tard le 24 septembre 2025 et fixer obligatoirement une date d'accession effective à la pleine souveraineté.
Ben, c'est un point de départ.
C'est un point de départ de négociation.
Oui, ben, il faut bien partir de quelque part. Pour l'instant, on n'a pas de cadre qui est donné par Matignon, ni l'Élysée. Nous, on dit, on avance. Nous, on sait on veut aller où. On a l'impression de croire qu'on va renoncer à notre idéal. Non, nous, depuis 83, quand on a été chercher Nainville-les-Roches, les vieux d'ici sont partis avec le calendrier pour l'indépendance. On n'a pas eu. On a dit, il faut construire un projet de société. C'est ce qu'on a fait. On a boycotté le statut Lemoine parce qu'il ne prenait pas en compte, encore une fois, le principe du corps électoral, faire société. On a dit, on va faire en 88. Ok, 88, corps électoral encore une fois, le socle sur lequel ces accords de paix, ils ont été construits. C'est ça le prolongement logique pour nous. C'est qu'on accède à des compétences, des colonisations. Là, pour nous, on est sur la dernière phase. On n'a pas l'intention de faire machine arrière et de demander la départementalisation ou l'autonomie.
Et quand on lui demande si un accord global est possible en mars, Emmanuel Tchibaou répond que tout est possible quand on veut, même s'il estime que la chute du gouvernement Barnier complique les choses.
Une interview du président de l'Union calédonienne qui sera rediffusée ce soir sur Radio Rythme Bleu. Elle est aussi disponible dès à présent en audio et en vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. 12h15, on marque une première pause dans ce journal avant de partir en métropole et revivre la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L'eau est essentielle. En cette période de sécheresse, chaque geste compte. préservons notre ressource, économisons notre eau.
Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information.
Excellent début d'après-midi, la suite de votre journal avec l'actualité en métropole. On retrouve Léo Fichou.
Et à la une de l'actualité en métropole, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a enfin rouvert ses portes tôt ce matin pour nous. 15 avril 2019, 7 décembre 2024, 5 ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice. 1h45 de cérémonie, de nombreux invités à l'intérieur de la cathédrale, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des personnalités. L'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, sur le parvis de Notre-Dame, a tout d'abord, à l'aide de sa crosse, demandé symboliquement à 3 reprises à la Vierge Marie d'ouvrir le portail de l'édifice.
Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés.
L'archevêque de Paris qui a ensuite accueilli le chef de l'État Emmanuel Macron, premier à rentrer en compagnie de Brigitte Macron, mais aussi d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Le public a ensuite pris place au sein de la cathédrale, une cathédrale qui s'est illuminée pour dire merci à toutes celles et ceux qui ont participé à sa reconstruction. 160 pompiers et artisans bâtisseurs qui ont paradé dans cette cathédrale, ovationnés durant plusieurs minutes avant un hommage musical. C'est ensuite que le chef de l'État Emmanuel Macron s'est exprimé dans un discours empreint d'émotion.
Je me tiens devant vous pour vous dire la gratitude à l'égard de tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris. Gratitude à l'égard de tous ceux qui sont présents au moment où nous nous apprêtons à la rendre aux catholiques, à Paris, à la France et au monde entier. Oui, ce soir, les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau et l'orgue dans un instant s'éveillera.
Un discours particulièrement suivi. Il y avait énormément de monde aussi à l'extérieur de la cathédrale. C'est là que vous avez suivi toute cette cérémonie avec de nombreux anonymes. Caroline Baudry, on imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions.
Oui, et même des larmes dans cette foule d'anonymes restés au moins 4 heures debout le long du quai face aux écrans géants. Simon, par exemple, un croyant de 34 ans, racontait attendre ce moment depuis 5 ans.
J'étais là le soir de l'incendie, donc je me suis dit que je ne pouvais pas rater la réouverture. Moi, j'ai beaucoup aimé les coups de crosse de l'évêque sur la porte, qui tape trois fois sur la porte.
Après cette entrée religieuse, Emmanuel Macron a rendu un hommage très solennel aux pompiers, puis aux artisans, ces professionnels qui ont rebâti la cathédrale, insiste Tchèque, 18 ans, très ému sous la pluie.
Ça m'a rendu heureux dans le sens où c'est des corps de métier qui sont assez rares, si je peux dire. Rarement on va entendre parler dans la sphère médiatique de facteurs d'orgue, etc. Et aujourd'hui, ça a vraiment mis leur métier à l'honneur. Ce sont des métiers de savoir, qui méritent d'être transmis aux générations futures et je trouve que c'est quelque chose de bien.
Le grand orgue de Notre-Dame a sonné pour la première fois depuis l'incendie, bien au-delà de la cathédrale. Les Tédéum, chants de louanges, ont envahi les rues alentours et toute l'île de la cité qui retrouve ce soir son joyau gothique.
Caroline Baudry pour Europe 1. Et parmi les images à retenir, cette rencontre à l'Élysée quelques heures avant la cérémonie d'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Une longue poignée de main sur le perron, une rencontre trilatérale, 45 minutes de discussion. Une réunion annoncée au dernier moment, mais travaillée et espérée par l'Élysée depuis plusieurs jours. Arthur Delaborde pour Europe 1.
En pleine crise politique sur le plan intérieur, Emmanuel Macron s'offre une respiration diplomatique. Dans un costume de médiateur, il a permis à Volodymyr Zelensky de plaider sa cause face à Donald Trump. Ce rendez-vous a été possible grâce à la relation de confiance entre le président américain élu et le président français, assure un diplomate qui parle d'une conversation fructueuse et d'un vrai gain pour les Ukrainiens. Reste à savoir si ces échanges seront de nature à faire évoluer la position de Donald Trump. Il l'a dit à plusieurs reprises, il ne veut plus dépenser des milliards de dollars pour aider Kiev et souhaite même pousser le président ukrainien à négocier avec Vladimir Poutine pour mettre un terme au conflit. Volodymyr Zelensky n'écarte d'ailleurs plus totalement cette idée, mais il pose ses conditions et exige surtout des garanties de sécurité, notamment une adhésion à l'OTAN pour tenter d'empêcher toute nouvelle offensive russe. Or, contrairement à Paris, Washington se montre jusqu'ici très réticent sur le sujet.
Arthur Delaborde pour Europe 1.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h20.
Dans la région en Nouvelle-Zélande, le ministère des Industries primaires a ordonné l'abattage des 80 000 poules pondeuses restant d'un élevage de l'île du Sud où la grippe aviaire avait été détectée pour la première fois en début de semaine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La vétérinaire en chef du ministère, le docteur Marie Van Andel, a indiqué que le sous-type hautement pathogène de grippe aviaire nommé H7N6 a de nouveau été détecté dans un poulailler industriel de la province d'Otago. Il y avait déjà été signalé lundi dernier. Par précaution, 80 000 volailles y avaient été détruites dans le cadre d'une opération dite de dépeuplement. Le virus vient toutefois d'être détecté dans un troisième poulailler dont les 40 000 poules pondeuses vont être détruites, a indiqué le docteur Van Andel, qui a ajouté que, par précaution, les 40 000 volailles du quatrième et dernier poulailler de l'élevage en question le seront également. Au total, ce sont donc les 160 000 poules pondeuses de l'élevage incriminé qui vont être détruites. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
12h22, deuxième et dernière pause dans ce journal. Restez bien à l'écoute d'RRB. On parlera sport juste après, notamment basket avec les finales territoriales qui se sont jouées hier soir.
La Brousse s'invite à Nouméa. Radio Rythme Bleu vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour le Royal Caledonia Show.
Ah ouais.
Venez nous voir sur le stand, suivez les directs de la foire, les interviews et venez jouer avec vos animateurs préférés à la roue de l'agence.
Il va y avoir quoi ?
De nombreux cadeaux à gagner. Des bons d'achat carburant avec vos stations Shell Pacifique. Une nuit en bungalow premium pour deux personnes avec le Kunwe Village de Yengen. Et plein d'autres lots. Alors passez sur le stand RRB samedi et dimanche à l'hippodrome Henri Millard. RRB, toujours présent sur les grands événements.
Jusqu'au 13 décembre, gagnez un séjour de 3 nuits, ensuite 4 personnes avec jacuzzi privé, dîners et petits déjeuners inclus dans un havre de paix et de verdure au Béticuré Park Lodge à Bouraille. Profitez de la piscine, d'un grand parc arboré et du calme des lieux, un cadeau d'une valeur de 159 390 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Le Béticuré Park Lodge vous accueille toute l'année dans un cadre luxueux et reposant. Toutes les actus sur le Facebook du Béticuré Park Lodge. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 13 décembre à 14h, 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Exactement, la suite du programme c'est avec le sport. On va retrouver Léo Fichou et Michael Gineski juste après avoir salué notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on ouvre nos pages sport avec du basket. Les finales du championnat territorial qui se disputaient hier soir, c'était à la salle Omnisport de Lens-Vata, Michael.
L'heure des matchs retour et dans la finale, la dame entre Rivière-Salée et le Mont-d'Or après la victoire à l'allée des filles du MDBC 80 à 45. La soirée a été bien plus serrée malgré une belle opposition des joueuses de Rivière-Salée. Toutefois, le Mont-d'Or s'est une nouvelle fois imposé 62 à 50 qui permet aux joueuses donc du Mont-d'Or Basket Club de décrocher le titre territorial, une fierté pour le coach du Mont d'Or.
Ça fait plaisir et ça fait de longues années que le Mont d'Or Basket Club attendait ça. On a essayé une année particulière, bien sûr. Et voilà, nous, on a pu être en demi, à être en finale et après, voilà, essayer de montrer que le Mont d'Or est toujours là. premier a essayé de mettre la manière. Après, la deuxième, peut-être les filles, peur de gagner aussi. Et c'est vrai qu'on a une belle équipe aussi en face. Hein. C'est des jeunes, il ne faut pas les sous-estimer. Donc bravo à elles. Et encore bravo à mes filles. Parce que, franchement, elles ont tout donné. Et OK, il y a des cadres, il y a deux, trois cadres, mais c'est que des jeunes. Et franchement, on pourra faire quelque chose l'année prochaine.
Et dans la finale, messieurs, cette fois, entre Dimbéa et Rivière-Salée. Je rappelle que c'est l'équipe de Dimbéa qui avait remporté le match 1 face à Rivière-Salée, 77-68. Hier soir, nouveau match très engagé entre les deux formations. Dimbéa était toutefois au-dessus et malgré un retour en fin de match de l'ASRS, c'est bien Dimbéa qui a remporté son 7e titre territorial en 8 ans, une victoire sur le score de 67-59.
Et d'autres compétitions avaient lieu ce week-end sur le territoire. On fait le point ce midi sur les résultats, Michael.
Et tout d'abord du football, les derniers matchs du trophée des 4 régions qui rassemblaient Thio, Boulou Paris, Coindé et Païta. Hier après-midi, l'AS Thio Sport s'est imposé en finale sur l'SC Boulou Paris et remporte donc cette première édition du trophée des 4 régions. Du kitesurf freestyle, ça se passait ce samedi sur la plage du Méridien. Le retour de cette compétition et la championne du monde junior, Phoebe Rocher, qui a réalisé le doublé, victoire chez les juniors et chez les féminines. En open, c'est Michael Siré qui a décroché le titre. Enfin, le trailer Calédonie de Marais. Et sur l'épreuve phare, le grand raid de 19 km, la victoire est revenue à Benoît Siegfried, tandis que Charlotte Guérard a terminé meilleure féminine.
Et on part aux îles Salomon avec aujourd'hui la deuxième et dernière journée du championnat océanien de rugby à 7. Malheureusement, la sélection de Nouvelle-Calédonie ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale. Les Cagous qui disputent tout de même aujourd'hui les matchs de classement à 13h18 précisément. Les Calédoniens affronteront les locaux, les îles Salomon. Le vainqueur jouera la finale pour la 9e place.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Et le rugby en Europe avec la première journée ce week-end de la Champions Cup.
Et hier en ouverture, le Stade Rochelet avait battu Bath 24-20. Aujourd'hui, Clermont a largement dominé les Italiens de Trévise 28-0. Toulon s'est imposé sur la pelouse des Stormers sud-africains 24-14. Victoire également du Racing 92 23-12 sur les terres des Anglais des Harlequins. En revanche, défaite de Castres 38-8 contre Northampton et du Stade Français face au Munster 33-7. Ce soir, des minuit, l'UBB jouera contre Leicester et puis dans la nuit, le Stade Toulousain recevra l'Ulster.
Et du football en métropole avec la suite ce matin de la 14e journée de Ligue 1.
Et Monaco qui n'a pas tremblé face à Toulouse, victoire 2-0, une victoire qui permet au Monégasque de reprendre provisoirement la 2e place du classement et de revenir à 5 points du PSG. Le Paris Saint-Germain qui de son côté a fait un match nul hier contre Auxerre 0-0 pendant que Lille battait Brest 3-1. Nice s'est imposé de son côté sur le Havre 2-1 et enfin Lyon a largement dominé Angers 3-0. Demain, suite et fin de cette 14e journée, 4 matchs au programme, Lens-Montpellier, Nantes-Rennes, Strasbourg-Reims et Saint-Étienne-Marseille.
Et du foot toujours sur les autres pelouses européennes cette fois.
En Italie, un match nul aujourd'hui pour la Juventus de Turin face à Bologne, 2-2. Hier, l'Inter Milan avait battu Parme 3-1 et le Milan AC s'était incliné contre l'Atalanta Bergame 2-1. Un beau choc à venir demain entre Naples et la Lazio de Rome. En Angleterre, une défaite de Manchester United face à Nottingham Forest 3-2. United est désormais 13e du championnat anglais. De son côté, Manchester City n'a pu faire mieux qu'un nul à Crystal Palace, 2-2. Demain, à noter que les Gunners d'Arsenal seront sur le terrain de Fulham, tandis que Tottenham accueillera Chelsea. La Bundesliga allemande et ce succès du Bayern Munich sur Heidenheim, 4-2. Enfin, en Espagne, le Real Madrid a corrigé Gérone 3-0 avec un but de Kylian Mbappé. Le Barça, de son côté, a été tenu en échec sur le terrain du Betis Séville, 2-2.
On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et donc la Formule 1, c'est la fin ce week-end d'une saison remportée par Max Verstappen, mais les places sur le podium sont encore très disputées.
Ouais, seulement 8 points qui séparent Lando Norris, le deuxième, et Charles Leclerc, troisième. Ce soir à Abu Dhabi, c'est d'ailleurs le Britannique qui partira en pole position aux côtés de son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri. La Ferrari de Carlos Sainz partira de la troisième place devant Max Verstappen, le champion du monde sur Red Bull, et Pierre Gasly, le Français au volant de son Alpine, cinquième sur la grille de départ. On l'écoute.
C'est assez fou de se retrouver ici en fin de saison, mais en tout cas, voilà, vraiment du très bon travail de l'équipe. Je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver les bons réglages pour juste avant la qualif. La bagarre va être rude jusqu'à la fin.
Et l'autre pilote de la Scuderia, Charles Leclerc, a lui été pénalisé de 10 places pour changement de batterie. Il partira de la 19e position. La lutte fera rage aussi au classement des constructeurs entre McLaren et Ferrari. Un Grand Prix à Abu Dhabi à suivre ce soir. Départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.